Charles Ferdinand Ramu, une main, 4. Exercice. Premièrement, coupez les feuillets d'un livre. Ce n'est pas très difficile. Tout dépend toutefois de la qualité du papier. On s'aperçoit que le même mot couvre les substances les plus diverses. Il y a des papiers épais mais de mauvaise qualité. Il y en a qui sont minces mais fibreux et tout entretissés d'une manière résistante à cause de sa continuité. D'autres poreux, sans contexture, faits seulement d'une bouillie hâtivement agglomérée qu'un principe visqueux consolide momentanément. Et donc, quelques-uns de ces livres, il suffit de les poser à plat devant soi et d'introduire le coupe-papier entre les pages. Leur poids seul oppose une résistance suffisante pour que la lame morde. D'autres, au contraire, fuient sous la lame. Alors, il faut s'ingénier. On les charge dans le coin d'un gros caillou, par exemple. Ça ne suffit pas toujours. Il faut trouver quelque chose de plus lourd encore, comme une caissette de fer, si on en a une. J'en ai une. Si la caissette ne suffit pas, il faut alors coincer le volume entre ses cuisses. Mais le volume en souffrira. Deuxièmement, introduire une cigarette dans le fume-cigarette. L'allumer. Facile. On serre le fume-cigarette entre ses dents. On n'a plus qu'à enfoncer la cigarette en la faisant tourner sur elle-même. Prendre garde pourtant qu'elle tienne, ce qui n'est pas toujours le cas, et on risque alors l'incendie. Car, d'une part, les premiers jours, on a de la peine à se lever. Et d'autre part, ces cigarettes mettent un malin plaisir, quand elles tombent, à aller se loger où on ne va pas les chercher, s'introduisant volontiers, par exemple, dans l'interstice qu'il y a entre votre moitié de chemise et les feuilles de ouate dont vous êtes matelassé. D'où des conséquences graves. Troisièmement, écrire. On distingue tout à coup, et pour la première fois de sa vie, qu'on écrit avec les deux mains. Au travail évident, et le seul auquel on prenne garde, de la main droite, la gauche vient sans cesse apporter une collaboration si discrète qu'on ne la remarquait pas. La voilà qui se venge. Brusquement, elle se refuse à ce rôle ingrat. Elle vous dit « Tâche de te passer de moi, tu verras. » On voit que pendant que la main droite formait les lettres, elle était là tout le temps qu'il aidait à les former. C'est elle qui tenait le papier. C'est elle qui tenait la pipe et la cigarette. C'est à elle qu'était dévolu un tas de petits gestes accessoires, mais non moins utiles et même indispensables, qu'elle exécutait fidèlement, sans même qu'on s'en doutât. Et maintenant qu'elle n'est plus là, il faut réapprendre à écrire. Il faut redevenir, en tout, un petit garçon. On recommence. Je me suis d'abord servi d'un bloc-notes et d'un crayon. Ensuite, je m'ingénie à fixer mes feuilles avec des punaises sur une planche à dessin. Mais elle est trop grande, trop lourde, mal commode. Et puis, ou bien on n'enfonce pas assez les punaises, alors votre papier fuit quand même, ou bien on les enfonce trop et on ne peut plus les enlever. Je m'en tire pour finir en mettant un presse-papier sur le bord de mon papier. Mais l'autre bras, pendant ce temps, qui porte à faux loin de la table. On peut aussi écrire à la machine, en se passant des majuscules, des points. En se passant des majuscules, des points-virgules, des parenthèses, des cédilles. Continue à se venger, parce qu'il pèse, il pèse, il pèse. Quatrièmement, apprendre à s'habiller. il faut au moins 15 jours pour arriver à s'habiller tout seul, enfiler ses chaussettes, passer son pantalon, se nouer un foulard autour du cou. Il faut, dans ce dernier cas, apprendre à se servir de ses dents, qui sont d'une très grande utilité, et faire comme les perruches, par exemple, qui grimpent le long des barreaux de leur cage en s'aidant du bec. On se rase assez facilement au bout de 8 jours avec un rasoir Gillette. On se lave la figure, on se brosse les dents. Le difficile est de se laver l'âme. Car si on réussit encore à se savonner la paume et même le bout des doigts, il n'en va pas de même du revers. On est bien forcé d'appeler à l'aide. Votre beau rêve d'indépendance est complètement ruiné chaque fois. Itinéraire. Pour aller de la chambre où je travaille à celle où je couche, il y a un long chemin à faire. Je ne m'étais jamais encore douté de sa longueur. Je m'étais douté encore moins, jusqu'à présent, des complications qu'il présente. Chacun des objets qui sont sur ma route ou l'aborde a désormais une situation, une dimension, un relief, une intensité d'existence que je ne lui connaissais pas. Mon mince personnage a doublé de largeur ou à peu près, ce qui fait que les corridors sont moitié moins larges et que tout obstacle, mais tout est obstacle, oblige à un long calcul avant d'être abordé. Nous portons en nous merveilleusement, à l'ordinaire, le sentiment de nos dimensions et de nos possibilités, car elles sont une valeur constante qui se connaît elle-même à chaque instant, étant sans cesse pareille à elle-même. Toute rupture d'équilibre a pour premier résultat de détruire en vous l'instantanéité du calcul, c'est-à-dire votre sécurité. Il faut, à chaque fois, se mesurer soi-même et la chose qui est devant vous. Tout ce qui était chez vous habitude devient réflexion. Tout ce qui était réflexe, volontaire. Il faut, à chaque occasion, peser soigneusement d'abord ses possibilités nouvelles, singulièrement diminuées, puis l'effort que l'objet va exiger de vous. Petit monde tout neuf, petit monde singulièrement plastique redevenu solide, redevenu dur, on s'en aperçoit vite, qui n'était plus que vaguement peint autour de vous et à distance, qui tout à coup s'est rétréci, qui tout à coup s'est rapproché, et qui substitue brusquement à l'apparence de ses couleurs la réalité de ses masses. Je vis dans un monde fraîchement sculpté, un monde fait d'une chambre, d'un corridor, d'un escalier, d'un autre corridor et encore d'une chambre. Mais dans les chambres, il y a des meubles qui ont des hauteurs différentes. Il y a des fauteuils qui ont des bras et des chaises qui n'en ont pas. Il y a un canapé avec ses coussins qui, eux aussi, ont un volume. Dans les corridors, il y a des portes. Dans l'escalier, il y a des marches. Alors, tout à coup, voilà que ces mots, ce qui n'était plus que des mots, j'entends meubles, fauteuils, chaises, coussins, marches, portes, reprennent tout leur sens et redeviennent des présences, parce qu'avec chacune d'elles, il faut chaque fois se mesurer. C'est amusant, mais fatigant. C'est une grande dépense de temps et de force. C'est une très utile école, mais où il faut de la bonne humeur et une continuelle application. Elle développe chez vous à merveille, à vos risques et périls, le sens de la précision. Une première porte que j'ouvre m'amène dans un corridor très étroit, où je ne peux pas passer de front, je suis deux, ou je suis double. Je suis deux soldats sur un rang, deux prisonniers liés l'un à l'autre par leurs menottes. Et il faut d'abord que je referme la porte que j'ai dû ouvrir largement pour passer, ce qui m'oblige à une évolution qui ne se fait qu'à frottement juste. Puis, à frottement juste, je m'avance de biais. le bras valide en avant. J'arrive ainsi à un palier qui est au milieu de l'escalier. Là, il y a un pas à faire. Là, avance sur l'espace libre un radiateur de petite dimension, mais dont il y a à tenir compte, comme j'ai vu mes dépens. Je fais un pas de côté. Le carreau est singulièrement glissant. Toute espèce de terrain ou de sol sous les pieds donne l'impression d'être glissant depuis cette première glissade. Le plancher, je ne parle pas du parquet, le ciment même, ou le tapis de l'escalier. Parce qu'elle est dans le haut de votre personne, l'insécurité est partout, et on a peur de tomber. On se tient au mur. Quand le mur fait défaut, on s'arrête. Puis, on hasarde un pas, encore un, puis encore un, comme le promeneur qui s'avance sur la glace. Ceci m'amène à l'escalier. Il est sans rampe quand on monte à main droite. Je veux dire que la rampe est de l'autre côté. Il n'y a qu'une quinzaine de marches, mais chacune a sa personnalité, car elles ne se ressemblent pas entre elles. Elles tournent, elles sont plus ou moins larges, elles n'ont pas la même largeur à leur debout. Et je suis condamnée à les monter par leur mauvais bout, étant reléguée dans leur partie la plus étroite par l'extension de mon personnage. Chacune est un effort, chacune une secousse. Je les monte une à une, comme le tout petit enfant qui sait à peine marcher, comme le vieillard qui ne le sait plus et désapprend. Enfin, j'arrive à une deuxième porte. Il faut que je la pousse violemment, de façon à l'ouvrir toute grande, puis que je me glisse de côté. J'ai ensuite à faire un tour complet sur moi-même. Je suis de nouveau sur ce méchant petit carreau rouge qu'on encaustique chaque jour. J'y suis comme sur des patins. Il y a à faire un tour savant sur soi-même, puis cette porte à fermer que je ferme, puis à recommencer mon tour, aux deux sens du mot, puis à traverser le bras en l'air et en balançant l'autre bras pour garder l'équilibre, le vestibule. Puis, prendre à droite. Là, on peut aller de front. Tout juste, on peut aller droit devant soi entre les murs blancs dont je touche tantôt l'un, tantôt l'autre. Ce qui m'amène à une troisième porte. Et cette porte étant poussée, à un nouveau petit vestibule qui est carré. Que la porte, en s'ouvrant, remplit entièrement. Et il faut donc, d'abord, la rabattre contre le mur. C'est le moment le plus délicat. Il faut procéder avec méthode. Il faut ouvrir une quatrième porte et s'y engager à demi. Il faut tirer parti du supplément de place qu'on est arrivé ainsi à se faire pour refermer la porte, cette troisième, et disposer ensuite de toute la largeur du corridor ainsi dégagé. C'est seulement quand c'est fait qu'on se sent sauvé. On voit alors le lit, on voit en face de soi la fenêtre, on voit le lieu de son repos. On oublie aussitôt la peine qu'on a eue, on oublie le temps que ça a pris. Le difficile itinéraire s'efface déjà de votre souvenir. Mais il n'est pourtant ni moins laborieux, ni moins difficile, ni moins long, ni moins anxieux pendant au moins une semaine. Et une première semaine passe, et une autre sans changement. Longueur du temps, brièveté du temps, monotonie. C'est extrêmement long et à la fois extrêmement court. Vos journées, désormais, se superposent exactement comme les feuillets d'un livre. On les tourne une à une, sans qu'on voie seulement augmenter leur épaisseur. Le papier est trop mince. Elles retombent l'une sur l'autre, elles s'accumulent, et c'est comme s'il n'y en avait toujours qu'une. Le temps est nié. Cependant, il dure par ailleurs. Il dure même extrêmement à cause de l'oisiveté à peu près forcée où on vit. On écrit guère et pas longtemps. On ne lit pas davantage parce que l'envie n'y est plus. La faim n'y est plus, manque d'appétit. Ah, comme nous sommes drôlement faits. L'occasion toute trouvée nous laisse indifférents, alors qu'en d'autres temps nous prenions tant de peine à essayer de la faire naître. Des livres, des loisirs, choses si souvent désirées, et c'est comme s'ils n'étaient pas là, car il y manque le désir. Ce n'est ni le pain ni le vin qui compte. Ce qui compte, c'est le goût qu'on a pour le pain et pour le vin. Ce qui compte, c'est ce dont on est privé, et c'est l'intensité du potentiel qui vous y porte. Ce qui compte, c'est non ce qu'on a, mais ce qu'on invente et ce qu'on s'invente. J'ai tout, je suis gâté, je suis devant une table bien servie. C'est comme si j'avais déjà mangé. Je ne veux rien, j'attends. On attend. On attend quoi? Je reste assis des heures, dans une parfaite immobilité, laissant venir le temps, laissant le temps se faire. Gris, gris et blanc, puis clair. Et puis il gèle. Et puis il ne gèle plus. Il neige. Il y a du vent. Il n'y a plus de vent. La bise souffle. Elle ne souffle pas. Regardant par les fenêtres à ma droite le petit cognassier, que je vois tout entier d'ici, être transformé en volière depuis qu'on y a suspendu, par des ficelles, une boîte à vacherins où l'on dépose les débris du ménage. Des hoches-queues, des mésanges, des fauvettes, des pics, des pies, des bouvreuils, des moineaux. 5 ou 6 gros merles ventrus paissent paisiblement dans l'herbe. Des messieurs et des dames, noirs et gris. Le petit pic, noir, rouge, blanc et brun, court avec vivacité le long du tronc. On entend son marteau qui tape par 3 fois, puis encore 3 fois sèchement, sur la face opposée à celle où est le trou d'insecte dont il veut faire sortir l'occupant. Puis, tout aussitôt, il accourt, miraculeusement suspendu à l'écorce. 5. Longue interruption. 2 semaines. Ça ne va pas comme on avait pensé. C'est que rien ne va comme on pense. Je suis retournée 2 fois à l'hôpital, et la seconde fois j'en sors sans appareil, mais le bras plus sec et plus mort que le membre retranché des écritures. On m'a replié le bras sur lui-même. On me l'a serré étroitement contre le corps. Et je suis comme au premier jour, au commencement du commencement. Je redescends. Je suis redescendue. Tout à coup, la fatigue survient. On s'occupe à la surmonter. On a déjà assez à faire. On s'occupe seulement à durer. Toutes les autres occupations semblent ridicules. Il arrive, parfois, qu'on s'installe à sa table. La plume vous tombe des doigts. Écrire? Quoi écrire? Et à quoi bon écrire? On voit qu'on n'intéresse personne. Qu'est-ce qu'écrire, sinon faire vivre? Et si soi-même on ne vit plus? Si les mots, eux aussi, sont morts, parce que les mots, c'est vous. Ils sont votre plus intime chair. Ils sont blessés là où elle est blessée. Oh, je n'accuse pas la médecine et encore moins les médecins. Je ne peux pas assez dire combien ils ont été dévoués, consciencieux, pleins de gentillesse à mon égard, en tout temps, perspicaces. Mais ils ne sont que des hommes. Nous ne sommes tous que des hommes. Nous sommes tous dépassés. Voyez que la médecine subit cette dure loi parce qu'elle est humaine. Elle ne vous guérit guère de votre mal, qu'en vous en infligeant un autre, qu'elle juge moins grave, et qu'il est sans doute, mais pas nécessairement moins douloureux. On ne vous restaure le bras qu'en l'immobilisant, ce qui très vite l'ankylose. Vous ne dormez pas, on vous fait dormir, mais c'est en vous empoisonnant. On voit que ce que tout malade attend sans se le dire, sans se l'avouer à soi-même, sans même se le formuler, c'est un miracle. Le miracle ne se produit pas, et le malade s'en prend au médecin. Il devrait s'en prendre à l'homme qu'il est lui-même, et aux hommes que les autres sont. Car nous sommes mal faits, ou bien c'est le monde qui est mal fait. Le monde n'est pas fait à la mesure de nos espoirs. Nos espoirs ne tiennent pas compte des possibilités du monde. Il y a ce qui est, que nous oublions constamment, et il y a ce que nous voudrions qui fût, dont nous faisons sans cesse au contraire une espèce de réalité. Et sommes inguérissables d'elle, c'est-à-dire inguérissables de ce que nous avons inventé. Nous nous heurtons partout à nos propres moyens, à nos propres mesures qui sont insuffisantes. Il faudrait d'abord guérir de soi-même, je veux dire de ses imaginations. Ah, comme je suis mal fait pour ma part, si j'ose ainsi parler de moi, mais je ne parle pas de moi ou je ne parle que de moi, parce que nous sommes tous mal faits. De nouveau, je vais et je viens devant mes deux fenêtres basses. Une persistante petite douleur est à la pointe de mon coude. Je regarde le jour gris pendre tristement aux carreaux comme des toiles d'araignée. Il gèle un peu, il dégèle, moins deux la nuit, zéro à midi, plus deux vers 2 heures, et puis de nouveau moins deux quand vient le soir. Allez, retour, oh mécontent, et depuis toujours. Il faut bien voir comment nous sommes. Rien jamais ne m'a contenté de ce que j'ai fait, ni de ce que j'ai eu, car ou bien j'aurais pu faire ou avoir davantage, ou bien ce qu'on obtient est tout gâté d'avance par les conditions mêmes où on l'obtient. Rien n'est pur, rien n'est assez pur, aucune joie dans les progrès qu'on vous loue, aucune joie dans la propriété, aucune joie dans la possession, aucune satisfaction dans le travail, ni dans ce que le travail apporte, ni aucune de ses sanctions intérieures ou extérieures, jamais, et encore jamais. Toute sa vie, on va, on fait, et c'est toujours comme si on n'avait pas avancé, comme si on n'avait rien fait. Je pense à toutes les fausses consolations qui, mises ensemble, font la morale. Économiser, faire sa tâche de chaque jour, y persévérer, avoir des enfants, leur laisser une fortune ou un nom. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Jamais rien de ce que j'ai eu n'a compté. Toutes mes joies ont été dans le rapport de moi qui suis, non à ce que j'ai eu, mais à ce qui est. L'homme est né pour la contemplation. Tous mes bonheurs me sont venus de là. C'est-à-dire que nos bonheurs ne peuvent être que désintéressés. Avoir n'est rien, être est tout. Être parmi tout ce qui est. Je vais, je viens, le jour baisse encore. Déjà, les mers le gagnent en criant les épaisseurs noires du lierre qui pendent à l'angle du vieux mur. Je vois que le vrai rapport est de ce qu'on est à ce qui est, dans le contact de l'homme tout entier à la chose tout entière. Et ensuite, si possible, faire en sorte qu'on puisse le communiquer, ce contact. Je peux contempler l'action avec volupté. En tant qu'action, elle me reste étrangère. Il y a un point qu'il faut atteindre, et on n'y atteint que rarement, qui est l'état d'adoration. Alors survient la plénitude, et elle est brève, mais rien ensuite ne la remplace. Est-ce qu'il faut déduire du bonheur où on a été la véracité du principe? C'est à peu près ce que font les chrétiens qui disent « Ce qui est vrai, c'est ce qui me rend heureux. » Ou bien, comme le savant, n'y voir qu'une illusion et n'y discerner qu'un mensonge. La vérité étant ailleurs et sans ménagement pour nous, parce que la vérité nous ignore, parce que nous ne sommes rien, parce que nous ne sommes qu'un tout petit rouage dans un énorme mécanisme qui aurait pu ne pas servir, qui bientôt ne servira plus. Ah, comme j'ai toujours manqué de confiance en moi-même, dans les autres, dans les institutions, dans les choses, dans tout ce qui est mortel, et tout est mortel. L'argent, les lois, les hiérarchies, la société, les civilisations elles-mêmes. J'ai toujours manqué de confiance en tout ce qui devient et change, et tout devient. La médecine devient, la médecine change. Quelquefois, on fait son bilan. On voit qu'il n'y a rien à l'actif. Et on est le plus pauvre des pauvres parce qu'on n'a en fait de richesse que celle qu'on croit avoir. La richesse aussi est confiance. L'avare n'est qu'un riche qui manque de confiance. Je suis plus nu et démuni dans le soir qui tombe que l'enfant qui vient de naître ou le mort qu'on couche au tombeau. Et je vois que j'ai peur, c'est tout. La seule chose qui me reste. J'ai peur, et je dis que j'ai peur. Tout le monde a peur, mais les uns le disent, les autres le cachent, ou cherchent à le cacher. L'homme d'imagination a peur. L'homme qui voit par des images, j'entends des vues d'esprit, mais aussi nettes, plus nettes même que ne serait la réalité. L'homme qui voit ce qu'il attend. Si la confiance en autre chose n'est pas là pour le rassurer, ne peut qu'avoir peur. L'homme d'imagination est un anxieux. C'est un candidat à la folie. Mais est-ce que la folie ou une certaine folie ne serait pas chez l'homme une preuve de lucidité? Commencement de mars. Je me relis et laisse subsister tel qu'il est le passage qui précède. Je vois bien qu'il est incomplet. Je vois bien aussi tout ce qu'il a de vague et d'insuffisant. Mais c'est moi tout de même, ou c'est un moment de moi. Je ne me suis jamais approchée de la métaphysique que de façon tout intéressée, pour la réponse que j'en attendais, qui n'est pas venue, qui ne viendra sans doute jamais. Je ne me suis jamais approché de la métaphysique que dans l'espoir d'y trouver une foi, ou du moins les raisons premières d'une foi que je n'y ai pas encore trouvée. L'espoir, chaque fois déçu, d'y découvrir peut-être le point où l'esprit, accroché enfin et pour toujours à une certitude, va pouvoir appeler le cœur et se réconcilier avec lui. Je ne suis pas un philosophe. Je suis un homme. Je ne cherche dans la philosophie que l'occasion d'une religion. Je ne sais même pas ce qu'elle est, ni où elle est, où elle commence, où elle finit, la philosophie. Je pars de la réalité des choses et vais à leur explication dans l'insatisfaction des choses. Puis, je redescends d'elles aux choses à cause d'une insatisfaction plus grande. Aller, retour, aucune solution. Mais du moins la réalité qui ne me contente pas est-elle une réalité pour moi? Je veux dire, quelque chose qui existe, que je vois, que je respire, que je touche, que j'entends. Massive, pesante, qui m'oppose une résistance, que je déplace ou ne déplace pas. Qui a son lieu, son origine, un point à elle dans la perspective. Tandis que les régions où commence à régner l'idée ne sont au-dessus d'elle que le séjour de toutes les nuées insubstantielles, hélas pour moi, émaniables en tous sens. Il faudrait que l'idée aussi eût la dureté du rocher. Non pas moins lourde, mais plus lourde. Non pas moins précise dans son contour, non pas moins définissable et définie, mais davantage. Non pas plus légère que l'air, mais aussi dense et plus que la matière elle-même. Comme il arrive seulement quand l'image s'en empare, mais par une conquête et une espèce d'annexion qui rendent aussitôt l'opération suspecte. apprenti philosophe, et à vrai dire, apprenti tout. Apprenti toute la vie et qui n'apprendra jamais. Les ébauches d'un apprenti. On vient de me débander l'avant-bras et justement, dans le temps même où il commençait à prendre l'habitude de ses bandes. L'état anormal tendait à devenir normal. On l'interrompt brusquement. Et je rentre dans le normal, en partie ou avec une partie de moi-même. Mais c'est lui qui à présent est devenu la normale. Cet avant-bras rendu à lui-même ne sait plus du tout que faire de sa liberté. Non seulement il n'en fait rien, mais il a la plus grande répugnance à en rien faire. On l'a habitué au repos, il n'aspire qu'à y rentrer. Privé du tout soutien, il s'en cherche un et à tout prix, tout rond, tout informe, tout pelé, pareil à un gros vilain serpent qui change de peau. Comme lui, inerte et engourdie, s'accrochant alors, par exemple, au bas de votre gilet qu'il ne quitte plus, s'immobilisant au creux d'un coussin, car le gros inconvénient de la situation consiste justement dans son renversement brusque, on veut dire dans le fait que la restitution survient au moment où elle ne fait plus besoin. Cependant, les médecins vous disent « Méfiez-vous de l'ankylose ». On constate que le bras est un outil singulièrement compliqué. C'est un outil qui est vissé à notre corps et à la fois dépendant et indépendant de lui, avec ses trois articulations, celle du poignet, celle du coude, celle de l'épaule. Chacune conçue de telle façon qu'elle peut tourner sur elle-même ou au contraire, se plier, aller en avant et en arrière, d'où les mouvements en tout sens qu'il a, et comme la possibilité d'épuiser toutes les positions imaginables, de tous côtés, si loin qu'il puisse se porter dans l'air. La paume de la main en haut, la paume de la main en dessous, puis elle va toucher l'épaule, puis elle est projetée en avant au bout du bras, puis elle se déplace latéralement, puis elle se lève, puis elle est amenée derrière la tête, et on pense « merveille », mais aussitôt « fragilité ». Car tout ce qui est complexe est fragile. Notre civilisation, qui repose sur l'extrêmement complexe, est extrêmement fragile. Il faut que les charnières soient en parfait état, sinon l'outil se refuse à servir. Les doigts deviennent raides, le coude s'engourdit, l'épaule s'immobilise. Nous ne travaillons qu'obligés. Donnez-lui seulement un mois de repos. Voilà que votre bras ne veut plus travailler. Il a pris goût à ne rien faire. Je regarde comiquement cette partie de moi-même parce qu'elle n'est plus moi. Elle a sa vie qui n'est plus la mienne. Elle a sa volonté à elle. Elle n'obéit plus à ma volonté. Je lui commande de se plier. C'est comme si l'ordre lui était transmis par téléphone et que le fil fût rompu. Elle ne bouge pas, elle m'ignore. Ou bien le mouvement qu'elle fait n'est pas celui que j'attendais. Un grain de sable et rien ne joue. Et l'esprit alors est sans pouvoir. Et le centre agissant en nous n'agit plus, faute d'un instrument convenable. De sorte qu'il faut briser par des moyens extérieurs ce qui est obstacle en dedans. Il faut qu'on vienne du dehors rétablir l'ordre intérieur. C'est ce que je vois, mais suis sans force devant moi-même, et peut-être sans envie. Je sens ce bras inerte à mon côté. Je m'en désintéresse, car mon esprit se tourne vers lui-même, et se considérant, il se voit lui aussi machiné. Il se voit, lui aussi, pourvu d'articulations, docile aux sollicitations qui lui viennent de partout, ou indocile, souple ou raide. Ah, qu'il reste, lui, en vie à tout prix. Je fais un marché, donnant, donnant. Que le bras reste mort, mais à condition que l'esprit, S'il est vraiment encore en vie, reste en vie. Tant d'hommes sont morts autour de moi, quoique vivants, sont immobilisés, définitivement immobilisés, et pour toujours atteints d'ankylose. Ils ne changeront jamais plus, ils ne peuvent plus changer. Le pire est qu'ils ne s'en doutent pas. La chose s'est faite à leur insu. Il n'y a pas de douleur, et il ne semble pas qu'on soit privé de rien. Ça ne se constate ni par la vue, ni par le toucher, ni par l'ouïe. Ça ne se fait que peu à peu. C'est lent, c'est extrêmement lent. L'esprit replié, lui aussi, replié dans ses habitudes, comme le bras dans son bandage, et peu à peu retranché de la vie par goût de ses commodités. Insensible à ce qui se dit, indifférent à ce qui se passe, incapable de regarder en avant ni en arrière, fixé sur lui-même comme à un centre, prenant ses habitudes pour des idées et ayant fini par confondre l'immobilité où il est avec celle qu'on prête ou qu'il prête à la vérité. Imperturbablement serein d'être retranché, mais qui s'ignore retranché. Combien d'hommes, et même combien d'hommes jeunes, car peut-être que l'esprit vieillit plus vite que le corps. Il est plus vite fatigué. Oh, comme je voudrais alors laisser vieillir mon corps, pourvu que l'esprit résistât aux sollicitations de la lassitude. Un bras mort, mais l'esprit vivant. Un des signes qu'on va mieux, c'est le goût qu'on reprend aux choses qui vous entourent. La serrure d'une porte, la forme et la couleur des poutres du plafond, un bouquet de saucisses se détachant en beau jaune sur le mur blanc du corridor. Toutes ces petites choses qui vous parlaient autrefois agréablement au passage, puis elles s'étaient tues et elles recommencent à parler. Une un matin, une autre le matin suivant, une autre encore. Toutes ces petites choses qu'on trouvait jolies, puis on ne les a plus même vues, puis on recommence à les trouver jolies, et elles vous adressent au passage comme un mot d'encouragement. C'est leur seule utilité, car autrement, elles ne servent à rien. Je veux dire qu'elles ont bien une fonction, mais que leur forme et leur aspect sont indépendants de leur fonction, et qu'ainsi, elles pourraient être quelconques ou laides, et alors servir davantage. Mais que cette utilité-là est celle précisément qui ne m'intéresse pas. Certains hommes tiennent pour un gain tout ce qui vous apporte une facilité. Moi, je ne tiens pour un gain que ce qui m'apporte un exemple. J'ai la haine du confort. J'aime que les choses vous résistent et vous contredisent, comme par exemple une maison trop grande, un feu de bois vert qu'on s'ingénie à allumer dans une cheminée qui tire mal. J'aime les choses qui sont à leur façon, tandis que je suis à la mienne. Elles ne veulent pas d'avance ce que je veux, par une disposition qui leur a été imposée en vue de mes commodités. Elles veulent ce qui leur plaît. Elles ont une volonté à elles dont il faut que je m'accommode, parce que moi, j'en ai une à moi. C'est une lutte qui commence. Il y a la ruse, il y a la force. On peut les aborder de front ou les tourner. L'essentiel est qu'il y ait en elles une qualité, et leur utilité seule n'en est pas une. Toute résistance vous oblige à être présent. Ce qui sert immédiatement et nécessairement, au contraire, n'est pas vu par vous. Reste inexistant. Toute qualité est dans être. J'entends une certaine façon d'être qui est à la fois hors de vous et est en vous. Tout vrai plaisir est seulement dans le rapport qui s'établit entre deux formes d'existence. L'inutile est ce qui ne vous vaut pas ce plaisir. L'inutile peut donc être dans l'immédiatement ou le matériellement utile. Il y a des hommes, les hommes d'action, pour qui il importe seulement d'aller vite, de ne pas perdre une minute en se rasant, en se baignant, en s'habillant. Il y en a d'autres, comment les nommer, pour qui les minutes qui comptent sont précisément celles qui pour les premiers seraient perdues, à cause d'un gain intérieur qui pour eux est tout, et pour cela rien. Qu'ils fassent, moi je ne fis pas, parce que je fais en ne faisant rien. Qu'ils aillent, qu'ils se déplacent dans l'espace en tous sens et le plus rapidement qu'ils voudront. Moi, c'est en restant immobile que je me déplace le plus et le mieux. Il y a des architectes qui imaginent un homme abstrait partout le même, pour qui ils construisent des maisons standards, partout pareilles elles aussi, et qui ne prétendent à d'autres mérites que celui d'une parfaite commodité. Il me plaît, à moi, d'être dans une maison pleine de coins et de recoins inutiles, et d'opposer à leur jacobinisme mes besoins d'hommes particuliers. Qu'est-ce qu'il reste aux habitants de ces maisons perfectionnées, où ils sont si strictement obéis dans un espace si strictement mesuré, au moment où ils ne font plus, où ils ont fini de faire, et où tout ce qui les entoure n'étant là que pour les y aider, est comme s'ils n'étaient pas, ne les y aidant plus. Ce qui leur reste, il faut lui dire, le spectacle du ciel étoilé. Car ces architectes jacobins sont aussi, et s'en vantent, des poètes. Ils entendent bien réserver à l'homme ce qu'ils appellent sa part de rêve. Ils ont machiné des toits en des terrasses, avec des fleurs et des buissons en pot, et puis des fauteuils à bascule, où il n'y a qu'à se laisser aller pour être face à face avec la majesté des astres. Oh, j'aime mieux mon bouquet de soucis. Je n'aime pas qu'on soit poète. J'aime mieux mon pressoir qui ne sert plus ou ne sert guère que 2 ou 3 jours par an. Mais où la vieille balanche en bois de chêne à la surface polie par 3 ou 4 générations de pressureurs me semble plus riche en enseignements de toutes sortes que la contemplation de la Voie lactée. Car je n'aime pas non plus qu'on rêve. Il faut en tout cas commencer ou tâcher de commencer par la précision. Il faut commencer par ce qui se laisse embrasser aisément. Il faut commencer ou recommencer par les petits commencements. Vers le 10 mars. Alors il s'est mis à neiger. Dans le pays que j'habite, la neige est rare ou ne tient guère. On aura assisté cette année au phénomène d'une neige tardive, en même temps que surabondante, et qui aura tenu, malgré la saison, près de 15 jours. Pendant que j'attends le masseur, je la regarde avec étonnement. Et elle est venue hier et elle viendra demain encore, 3 jours de suite, 3 fois 24 heures, sans arrêt. Le lac au bas de la pente des vignes, qui est toute blanche, fait penser à un vieux plancher de salle à boire qu'on viendrait d'arroser. Et, dans un miraculeux silence, on voit le ciel qui est d'un gris doux et qui pend dessus, être tout faufilé par les flocons qui tombent comme une doublure de manteau. Pas une auto, ni près, ni loin, ni sur la route, et qu'on peut voir, ni même avec son seul bruit dans le fond de l'air. Pas une voix nulle part dans les vignes et dans les jardins. Les chemins sont muets sous les pas, comme dans une maison pleine de tapis. C'est le silence qui nous réveille le matin. On était habitué à entendre quelque chose, et ce quelque chose qui manque vous tire de votre sommeil. Alors, on voit que 2 grosses branches, les plus belles, ont cassé dans le haut du cèdre pendant la nuit. Celles du bas touchent à terre. Elles cèdent peu à peu sous le poids, comme la tête d'un enfant qui a envie de dormir. Un peu, puis un peu plus, puis encore plus, avec des secousses, des essais de redressement, puis un affaissement nouveau. Et on voit que partout, le même minutieux et monstrueux travail continue à se faire par addition et superposition. Sur les murs, les barrières, le buis, sur chaque aiguille, sur chaque branche, partout où il y a une surface suffisante. ce très silencieux et très précautionneux travail d'empilement qui est un premier flocon, un deuxième, 100, 1000, puis 100 000, mystérieusement échafaudés. La moindre branche à peu près horizontale est quadruplée dans sa hauteur, de sorte que son bois noir n'est plus qu'un trait et une faible marge au bas de ce format nouveau qui est le sien, dressé sur le ciel devant vous. Le pieu verdi de mousse est continué par un pieu blanc. Les buis sont une base verte à un petit mur qui croît de hauteur, tandis que la base diminue pour disparaître bientôt tout à fait. De temps en temps, de ci, de là, l'équilibre se rompt et l'édifice tombe à terre, avec un bruit velouté qui est le seul qu'on entende. Un paquet de neige dégringole et va s'enfoncer sourdement dans la molle épaisseur qui l'attend sur le sol. Et les oiseaux volettent partout, hésitant à se poser sur ces perchoirs qui les étonnent, n'étant plus ronds, mais singulièrement ovales, ou en forme d'ellipse, ou irrégulièrement rectangulaires, et qui ont changé de couleur. S'ils se posent par terre, ils n'ont plus de pattes. La grosse merlesse est retenue par ses plumes qu'elle ébouriffe maladroitement autour d'elle, comme une petite fille tombée à l'eau par son jupon. C'est un homme doux et inexorable. Il sonne. Je sais bien que c'est lui pendant qu'on va ouvrir. Je l'attends à 3 heures et 3 heures viennent de sonner. J'entends sa voix. J'entends qu'il parle et qu'on lui répond. Entrez seulement, monsieur. Je l'entends qui monte l'escalier. Et il faut que je quitte le coin de canapé où je suis. Et je suis si bien, parce que je ne fais rien, parce qu'on m'y laisse tranquille, parce que j'ai les mains croisées dans une totale immobilité. Je dissimule la peur qui est en moi sous un torrent de paroles. Je vais à la rencontre de M. P. Je lui serre la main. « Comment allez-vous, M. P. ?»« Merci, pas trop mal. Et vous ?»« Mal. C'est une précaution que je prends, mais elle ne sert à rien. »« Il faut que j'ôte ma veste. Rien ne retardera le moment fatal, comme je vois. » Eh bien, vous avez pu arriver. Et tout juste, il m'a fallu venir à pied. À pied? Il m'aide à ôter mon gilet. Oui, les tramways ne marchaient plus. L'employé m'a dit, on ne sait pas quand on partira, les aiguilles sont gelées. J'ai beau faire, je parle et il parle, je parle beaucoup, il parle beaucoup. Rien n'empêche que sa besogne ne se fasse, parce que me voilà nue jusqu'à la ceinture. Lui-même a retroussé ses manches. Il prend son flacon de poudre de talc. Il commence à se faire vieux. Il a la moustache et les cheveux gris. C'est un homme extrêmement doux. Il a d'abord été infirmier à l'hôpital, puis s'est établi pour son compte. Extrêmement doux et inexorable. Poli, respectueux, prévenant, pas du tout prétentieux, tranquille. Mais sachant très exactement ce qu'il a à faire, c'est ça qui m'inquiète, et ayant d'ailleurs reçu par téléphone les instructions du médecin. Je lui dis, « Écoutez, Monsieur P, vous irez doucement aujourd'hui, j'ai mal dormi la nuit passée. » Est-ce qu'il a entendu? Il est en train de me saupoudrer le bras et l'avant-bras de l'épaule au poignet, par petits tas qu'il étend de la main. Et je sens avec désespoir que je suis impuissant contre un métier devenu chez lui tout mécanique. Et moi qui pensais l'arrêter, moi qui croyais que j'allais peut-être obtenir par mes recommandations quelques adoucissements. Il me répond toujours oui. Doucement, Monsieur P. Oui, monsieur, on ira doucement. Et pendant qu'il commence, moi, j'abonde et je surabonde en paroles, pensant le distraire par mes discours, pensant l'obliger sans doute à porter son attention ailleurs, sur ce que je dis, sur ce qu'il va me dire, pensant créer entre nous, c'est l'arrière-fond secret de ma pensée, une atmosphère de confidence et d'amitié où toute espèce d'intervention violente deviendrait impossible parce que déplacée. Il est doux, il est causant, je parle, il parle, et cependant, ses deux mains vont et viennent. Il est extrêmement causant, moi aussi. Il me raconte ses débuts dans la vie, qu'il était orphelin, que son tuteur lui avait fait faire un apprentissage chez un cordonnier, qu'un ouvrier cordonnier gagnait alors 30 francs par mois. Il est vrai qu'il était nourri et logé, que tout à coup il avait perdu sa place, qu'il était venu à Lausanne, qu'il avait fait son école de recrue dans les troupes sanitaires, qu'il se trouvait ainsi avoir des camarades de service à l'hôpital, qu'il avait eu l'idée d'aller leur demander s'il n'aurait pas de l'ouvrage pour lui. Moi, je l'interromps de temps à autre pour lui poser une question. On en est encore qu'au massage qui dure un petit quart d'heure. Et heureusement que l'infirmier de M. le docteur professeur Césarot « Ah oui, celui-là, me dit M. P. Celui-là. » Il neige toujours. « C'est un homme, il m'a fait venir. Je te prends 15 jours à l'essai. Si au bout de ces 15 jours ça ne va pas, place à un autre. Tu es d'accord ?»«
Je suis d'accord, monsieur le professeur.
À présent, quelques mouvements. »« Oh, qu'est-ce que vous allez me faire, monsieur P. ?»«
Eh bien, essayez vous-même, essayez de plier le bras. »«
Je ne peux pas. Il me tient la main, il me tient l'épaule. Et j'ai beau dire, j'ai beau faire. » Mon poignet, lentement, sous sa pression, tente à se rapprocher du bras, bien peu et de quelques centimètres à peine pour commencer, pendant que je ressens autour du coude, à cause des muscles tout enflés, tout tordus, plus embrouillés qu'un tas de vieilles cordes dont on ne s'est pas servi depuis longtemps, une douleur insupportable.
Voilà, ça va bien.
Monsieur P est encourageant.
Encore une fois. « Oh, monsieur P, pas aujourd'hui. »
Et au bout de 15 jours, c'est l'histoire qui continue.
« Ah, oh, monsieur P,
je retombe en avant, je suis couvert de sueur froide. À présent,
oh, c'est fini. »«
Oh, pas encore, mais vous verrez, on va aller tout tranquillement, on va essayer de scier du bois. » Et ça recommence. Je retiens. Monsieur P n'insiste pas tout d'abord, on scie du bois tout doucement. Il me raconte qu'au bout de 15 jours, ça va un petit peu plus fort. J'essaie d'accrocher au passage ma main gauche avec la main droite. Il me raconte toujours son histoire. Je voudrais intervenir, je ne peux plus, je ne trouve pas mes mots, ou ils me restent sur les lèvres. Oui, j'ai d'abord été garçon de salle.
Doucement !
Encore 2 ou 3 fois et ce sera fini.
« Garçon de salle, qu'est-ce que... Aïe !»
Voilà. À présent, il vous faut tâcher d'écarter le coude du corps. Impossible. Essayez.
Alors, un petit moment de repos, monsieur P.
Voilà où j'en suis. Je veux dire que j'en suis réduit à la mendicité. Je ne peux pas plus empêcher la chose de se faire que je n'empêche la neige qui tombe derrière les carreaux de tomber. Alors, je suis lâche, je supplie. J'ai le ton larmoyant et humble du mendiant qui tend son chapeau. J'ai recours à la pitié. Il ne me déplaît pas d'être misérable. Je ne cherche qu'à inspirer la compassion. Je me suis laissé retomber dans le coin du canapé, tout ruisselant sous le châle que j'ai jeté sur mes épaules.
« Eh bien ?»«
Oh, qu'est-ce que vous allez me faire encore, monsieur P ?» Dans nos poulaillers du bord du lac, il y a parfois... Dans nos poulaillers du bord du lac, il y a aussi parfois des canards. Les propriétaires prudents leur coupent le bout de l'aile. Non pas le bout des deux, mais le bout d'une seule, n'opérant à dessein que d'un seul côté. Alors, la bête est toute déséquilibrée. Ils savent ce qu'ils font. Le canard est la bête la plus pataude qu'on puisse voir, la plus lente, la plus empruntée, la plus domestiquée également en apparence, de sorte qu'on n'imaginait même plus qu'elle pût voler. Mais méfiez-vous, il suffit un matin d'un mystérieux appel venu du haut désert, de quelque part derrière les roseaux de la rive, où leurs camarades sauvages sont de passage, il y a tout à coup un énorme battement d'ailes. Et avec un bruit de catastrophe,
quelque chose de gigantesque qui fait une ombre sur le sol s'est rapidement élevé au-dessus du treillage, des arbres, des toits, gagnant les hauteurs du ciel avec une suprême aisance, puis a trouvé la direction de l'eau. Rapidité, force, décision, allégresse. La bête a maintenant tout ce qu'elle n'avait pas. Elle savait à peine marcher, elle étonne par son vol. Et c'est justement ça qu'on lui prend en lui coupant le bout de l'aile, le bout d'une seule. Par quoi on croit la condamner à un éternel pataugeage, à éternellement avoir une démarche de femme à son 9e mois, à une triste promenade en rond tout le long du jour, à peine égayée parfois par un air de mirliton sur une seule note. On m'a coupé le bout de l'aile, mais chez moi, l'aile repousse. Du moins, j'y compte bien.